Bonjour, nous allons faire une lecture dans Actes chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, et verset 20, verset 18. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur pour que les personnes qui écoutent ce message puissent être touchées par ton esprit et sachent prendre une décision, une position pour toi, au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Alors, au début de ma vie chrétienne, j'avais des modèles. Il y avait Raphaël le Gitan, Raphaël Duval, avec un ministère d'évangéliste, de guérison magnifique. Il y avait Archange, un homme de Dieu qui avait un don en plus de révélation extraordinaire, et puis Osborne avec ses grandes réunions de 200 000. 300 000 personnes, avec des gens sauvés, des gens guéris, et ces trois personnes m'impressionnaient, et je voulais manifester un ministère comme le leur. Faire des missions un peu partout dans le monde, conduire des gens à Jésus-Christ, prier pour les malades, pour moi ça c'était le summum. Il me semblait que rien n'était plus valable que ça. Rien n'était plus productif dans le royaume de Dieu. Je pensais ça, j'avais 18-19 ans, et j'ai fait ça pendant des années. Et tout au long de ces années, eh bien, je comparais mon ministère avec leur ministère, cherchant toujours à rester dans la droite ligne, ne pas m'écarter de ce modèle qu'ils étaient pour moi. Et j'ai été béni, et j'ai été une bénédiction pour des milliers de personnes qui ont été sauvées, qui ont été guéries, il y a eu des miracles. Beaucoup de gens peuvent en témoigner un peu partout dans le monde. Et puis un jour, Dieu m'a parlé de la vie communautaire, parce que je voyais que l'Église, c'était pas ça, et je me demandais, mais enfin, comment c'est, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'Église n'est pas... Enfin, il me semblait que l'Église n'était pas comme elle devait être. Et en lisant les Écritures, dans Acte 2, Acte 4, je me suis rendu compte que les premiers chrétiens vivaient ensemble. Enfin, vous trouvez tout ça raconté dans mon livre Oracle, que vous pouvez commander sur Révélation Bible. On ne vend pas, on le donne... Il y a juste, vous payez le port. Enfin, vous m'écrivez, puis je vous répondrai là-dessus. Et puis là, dans la vie communautaire, j'ai été en bénédiction pour de nombreuses personnes aussi, vraiment. Et je pensais que là, eh bien, je n'étais pas en train de me comparer à quelqu'un, parce qu'en fait, je connaissais personne qui vivait ce que nous vivons en communauté. Bon, évidemment, je connaissais bien des moines, particulièrement des trappistes, à Roquebrune-sur-Argent, je connaissais bien quelques escrocs qui vivaient dans des sectes avec des Rolls et des voilà, enfin je connaissais des, mais c'était pas, il y avait rien qui ressemblait à ce que moi je voulais vivre selon les Écritures. Alors quand je regarde encore un peu plus loin dans ma vie, quand j'étais gamin, en fait je comparais les notes que j'avais à l'école avec les notes de mes copains, mes copines. Je comparais déjà. Et puis, en tant qu'ado, eh bien, je me suis comparé aux autres ados pour me rassurer. Pour, hein, en crise, on cherche un peu notre identité. Et puis, en tant qu'adulte, eh bien, je me comparais aux autres adultes pour me conforter, me sentir utile à la société, et pour le royaume de Dieu. Et en fait, bon, ben, ça, c'est une chose qu'on fait tous plus ou moins consciemment, se comparer aux autres. Et puis, tout à coup, avec la vie communautaire, je sortais complètement du lot. J'étais comme personne. Je pensais différemment des autres à tel point que des fois, avec les frères et sœurs de la communauté, on disait, mais quand on parle avec les chrétiens, on ne sait pas par où commencer parce que on dirait que c'est tellement différent ce que nous vivons de ce qu'ils vivent eux dans leurs églises qu'on ne sait pas par où commencer pour leur expliquer ce que Dieu nous a donné. Et... Ça réveillait quelque chose en moi, mes frères et sœurs. J'étais plus une personne qui cherchait à être ou à faire comme les autres, et ça m'a ouvert l'esprit pour écouter la voix de Dieu, parce que je ne pouvais pas écouter quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas écouter un homme, je pouvais pas écouter un serviteur de Dieu, même il me regardait comme une bête rare. Il y en a même un jour qui m'a dit, j'étais sur l'estrade, c'était à Bruxelles, je me rappelle. J'étais assis sur l'estrade avec le pasteur, et il se penche vers moi, puis il me dit, en me montrant les gens qui étaient là devant, en train de louer Dieu, il me dit, tu me vois vivre avec des gens comme ça. L'air de dire, il les méprisait, quoi. Moi, j'étais horrifié. Donc, j'avais pas de modèle humain. Il fallait que j'écoute la voix de Dieu, il fallait que j'écoute la parole de Dieu. Et ça m'a ouvert l'esprit. Car des gens comme moi qui évangélisent puis qui prient pour les malades, il y en a partout. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour moi? Bien sûr, Dieu veut ça pour que tous les chrétiens fassent ça, en fait. Mais, en fait, je ne m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il me semblait que c'était évident, que c'était ça que Dieu voulait, que je fasse des réunions, que je prie pour les malades, que... voilà. Et puis j'étais très satisfait, j'étais très content. Et, ben, comment ne l'aurais-je pas été avec ce succès extraordinaire, ces réunions fantastiques et... Mais les chuchotements du Saint-Esprit se sont fait entendre, et c'est un peu comme s'il me disait « Parle de ce dont personne ne parle. Consacre ta vie au rétablissement de toutes choses. » Voilà ce que Dieu voulait pour moi. Or, j'ai été, et je suis encore, un bon évangéliste. Je sais gagner des âmes, et puis on me connaît à cause des réunions miracles. Bon, voilà, ça continue, je vais encore en faire. Sur ça, j'ai rien à prouver. Je n'essaye pas d'impressionner quelqu'un. C'est un fait, c'est comme ça, c'est ma vie, depuis que j'ai 18-19 ans, et... Mais en vivant et en enseignant le rétablissement de toutes choses, par contre, en faisant cela, en le vivant, en l'enseignant, eh bien, je sais que je plais à Dieu, parce que là, c'est lui qui m'a demandé de le faire vraiment. En réalité, toutes ces années passées à évangéliser dans plus de 70 pays, pour moi, ça reste une preuve que je peux le faire, je sais le faire. Alors, comme j'ai été fidèle là-dedans, ben Dieu m'a confié autre chose, quelque chose de plus grand. Vous avez vu ce que nous venons de lire? Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toute chose. Mais c'est quoi ce rétablissement de toute chose? Avant de me confier ce ministère du rétablissement de toute chose, Dieu m'a éprouvé. Et pour m'éprouver... Il s'est servi de personnes que j'aimais. En fait, il les a aussi éprouvées afin que, pour savoir si elles étaient dignes de servir dans ce ministère du rétablissement de toutes choses ou pas. Alors certaines sont passées par l'épreuve et d'autres pas. Ils ont ça cassé là. Alors mon but ici, c'est pas de juger ou de condamner ceux qui n'ont pas passé par l'épreuve, qui n'ont pas réussi l'épreuve. Je ne veux pas les juger au nom d'un moralisme à deux balles de religieux. Non. Simplement, je dis que je suis heureux de faire partie d'un petit groupe qui a développé une culture qui lui est propre. La culture du rétablissement de toutes choses. Ce petit groupe que nous sommes est ouvert aux autres groupes, aux autres cultures, aux autres façons de voir la vie chrétienne. Nous nous sentons parfaitement à l'aise dans n'importe quel milieu. Ça ne nous gêne pas d'aller dans n'importe quelle dénomination chrétienne. Et nous ne cherchons pas à ressembler aux autres, mais ce que nous désirons le plus, c'est d'essayer d'inspirer les autres. Vous voyez? C'est tellement bon de leur faire découvrir qu'il existe une autre façon de vivre le christianisme. Une autre façon de vivre la vie d'église. Alors, ça ne les dérange pas quand ils viennent nous fréquenter un dimanche. Mais ça commence à les déranger s'ils prennent conscience qu'en fait, eh bien, eux, ils vivent comme tout le monde et que c'est ben triste. Et cette impression qu'ils ont, j'ai remarqué ça depuis toutes ces années, cette impression de vivre comme tout le monde, ça peut devenir une oppression pour eux. Ils commencent à se questionner, à hésiter, à avoir des doutes, non pas sur Dieu, pas du tout, mais sur le sens de leur vie. Nous contacter, ça les éprouve. Et certains ne passent pas bien cette épreuve. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous êtes comme tout le monde, ben vous passez inaperçu. Vous ne dérangez personne. Sauf peut-être pour des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Par contre, si vous décidez de suivre Jésus dans ce processus du rétablissement de toutes choses, il va vous mettre à l'épreuve. Et surtout, à l'épreuve au milieu des gens que vous aimez, que vous connaissez. Et si vous réussissez à passer cette épreuve, votre vie va changer. Votre vie va devenir passionnante, mais elle va déranger les moutons. Parce que vous allez devenir un montreur de chemin. Vous montrerez un chemin différent. Jésus est le chemin, mais il vient sur ce chemin à notre rencontre et nous devons aller sur ce chemin à sa rencontre. Ce chemin, c'est celui que Dieu veut pour son peuple. Il veut que son peuple vive cela aujourd'hui, aller à sa rencontre. Noé, en son temps, il montrait un chemin, l'arche. Il fallait entrer dans l'arche, c'était la condition. Moïse, lui, en son temps, montrait un autre chemin. Il n'était plus question d'une arche, mais une terre promise. Eh ben, il fallait avoir du courage pour suivre le pépère Moïse, hein. C'était pas rigolo. En fait, tous les prophètes ont montré un chemin pour leur époque. Alors, quel est le chemin pour aujourd'hui? Eh bien, c'est celui d'aller à la rencontre de notre époux divin. Et en marche sur ce chemin, nous sommes sur un chemin ténébreux. On va me dire, ah bon? Ben oui, ténébreux, parce que nous sommes dans ce monde de ténèbres. Et aussi et surtout, ce qui est bizarre, paradoxal, c'est que nous marchons au milieu des ténèbres du monde religieux conformiste. Qui soit ne nous comprend pas ou alors fait semblant de ne pas nous comprendre. C'est un chemin où nous avons besoin de lumière pour marcher, parce que ce chemin est ténébreux. Je vais vous lire un passage de Zacharie, c'est le prophète Zacharie qui parle et qui explique comment ça sera au retour de Jésus. Au chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Vous savez, vous qui êtes chrétien, que c'est de Jésus dont il est question. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, le roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière poindra, la lumière paraîtra. Voilà ce que Zacharie dit. Quand le Seigneur reviendra, ce sera un temps de ténèbres sur la terre, ni jour ni nuit, hein? Un jour bizarre. Ça veut dire que ce sera un temps bizarre, où la lumière et les ténèbres seront mélangées, c'est le mélange de l'apostasie. Tout. Mais la lumière qui poindra vers le soir de l'histoire de cette humanité pervertie, cette lumière, ça sera le message du rétablissement accompli cette fois, parce que Jésus sera là. Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Pour le moment, ce rétablissement est en marche, c'est un rétablissement, c'est un processus. Les choses se rétablissent petit à petit et l'Église se rapproche de plus en plus du message original de la Bible. Mais c'est un processus qui est lent et nous y travaillons. Nous avertissons l'Église, nous avertissons le monde au travers des écrits, des livres, des brochures, des conférences, des réunions, d'Internet surtout. Essayons de réveiller ces vierges sages, ces vierges folles qui dorment en leur disant « L'époux vient, il faut être prêt, il faut avoir l'huile nécessaire, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le message du jour, vous ne pouvez pas vous contenter du message d'il y a 50 ans, vous ne pouvez pas vous contenter du message de Noé ou de Moïse ou d'Ésaïe. Non, il y a un message aujourd'hui. » C'est un ministère particulier. C'est la manifestation de la prêtrise rétablie. Vous savez, ce rétablissement a commencé et il continue. L'enlèvement aura lieu et ce message du rétablissement, lui, il restera dans les livres, les brochures, sur Internet. Et si vous n'êtes pas enlevé, vous pourrez l'écouter, vous pourrez le lire, vous pourrez le découvrir. Et puis un jour, Jésus reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et tout œil le verra, dit la Bible, tout genou fléchira. Alors, je vous le dis, mes frères et sœurs, ne serait-il pas mieux que vos yeux le voient maintenant? Ne serait-il pas mieux de fléchir les genoux maintenant plutôt que d'attendre ce jour terrible? Et de ne pas rester en arrière, mais d'aller de l'avant avec ce message du rétablissement, rétablissant vous-même dans votre propre vie les choses qui doivent être rétablies, guérissant les choses qui doivent être guéries, pratiquant les choses que les églises ont oubliées, ont délaissées, ont rejetées. Ne vous contentez pas d'être comme tout le monde. Ne vous contentez pas d'être simplement un chrétien du dimanche ou du mercredi soir, je ne sais pas quoi. Mais entrez dans cette vie du rétablissement. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'être vous, libre de continuer à vous comparer aux autres, ou libre de suivre le mouvement religieux actuel, ou de vous enfuir de ce truc-là, libre de vous conformer au siècle présent, ou libre de vous singulariser. D'être différent, oser être différent, entrer dans le message d'aujourd'hui, cette lumière, dans ces ténèbres, dans cette confusion qu'on voit partout. Vous êtes libre hein, de vous étouffer dans votre fragile petit train-train religieux, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de rester dedans, mais vous êtes libre d'y rester. Je suis juste une voix qui crie, l'époux vient. Arrêtez de jouer aux chrétiens et vivez l'évangile rétabli. Vivez-le. Ne vous contentez pas simplement d'écouter, mais mettez ces choses en pratique. Ô Dieu, je te prie de tout mon cœur pour que ces personnes qui m'ont entendu ce soir prennent conscience de l'importance de ce message et se mettent à entrer dans ce rétablissement. Voyant que tu as rétabli des choses que les églises ont rejetées. Et je te prie de tout mon cœur qu'ils se mettent à vivre par le Saint-Esprit les choses qui sont écrites et que tu es en train de rétablir. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, afin que ces gens qui m'écoutent soient guéris, soient bénis, ne vivent pas une vie morne, triste, pleine de routine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie que tu leur donnes ta joie au milieu du travail dans ta vigne. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.